Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans 10 jours, mes frères, le Seigneur dira à chacun d'entre nous, par la bouche de son prêtre, « Lorsque vous viendrez au banc de communion recevoir les cendres, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. » Est-ce qu'on doit voir dans ce rituel du mercredi des cendres le signe d'un mépris du christianisme pour l'être humain? C'est ce que certains ont prétendu. Vous savez, ce fameux masochisme prétendu du christianisme auquel je fais souvent allusion. En réalité, nous savons bien, toute la révélation nous interdit de penser ainsi. Il n'y a aucun mépris pour la créature humaine. Il n'y a aucun mépris depuis qu'on a lu, par exemple, dans le livre, on le comprend depuis qu'on a lu dans le livre de la Genèse, « Faisons l'homme à notre image et comme à notre ressemblance ». S'il y a une telle accointance, un tel reflet de Dieu dans l'homme, cela évidemment implique une profonde noblesse de l'être humain. Le Verbe lui-même, coéternel au Père, assume la condition humaine, c'est donc qu'elle ne représente aucune injure à sa perfection divine. En réalité, l'imposition des cendres qui va vous être faite entend rappeler que par vous-même, par nous-mêmes, je m'inclus dans le lot, livrés à nos seules forces, à notre propre conseil, nous ne sommes rien. C'est-à-dire que nous devons tout attendre de la providence divine. De même que nous devons notre existence à cette cause ultime qu'est Dieu, de même, nous ne sommes maintenus dans l'existence que parce que Dieu, à chaque instant, continue de penser à nous, continue de dire sa parole éternelle. Et cette haleine de vie doit nous être communiquée à chaque instant, vous le savez bien. Mais le christianisme n'en reste pas là, c'est-à-dire à rappeler à la créature qu'elle n'est vraiment pas grand-chose et qu'elle n'a pas à se dresser sur ses ergots tel le petit coq que nous sommes à peu près 5-6 fois le jour. Le christianisme n'en reste pas là, il montre que cela accepté, c'est-à-dire la vacuité de l'être humain accepté, le fait qu'il sorte du néant et qu'il ne soit qu'un peu de poussière, eh bien Dieu a voulu pour l'homme, il a voulu quelque chose d'extrêmement noble, que l'homme coopère, co-crée, procrée avec cette cause première qu'est Dieu, avec ce créateur qu'est Dieu. C'est toute la noblesse de la créature, en effet, que de pouvoir dire à juste titre, alors qu'elle ne tient rien d'elle-même, cette créature, qu'il faut que Dieu à chaque instant intervienne. Néanmoins, elle peut dire à juste titre, ceci est mon œuvre, c'est moi qui l'ai fait. Relisons l'épître de saint Paul, magnifique et dithyrambique. Que dit saint Paul? Il montre la coopération de chaque instant que depuis sa conversion, il a bien voulu procurer à l'œuvre divine. « J'ai agi plus que tout autre », a-t-il le culot de dire. « J'ai agi plus que tout autre. La grâce n'est pas restée en moi stérile. » Il faut quand même oser. « J'ai agi plus que tout autre » et il ajoute aussitôt, non pas moi, mais la grâce qui est en moi. Néanmoins, c'est à la première personne du singulier qu'il énumère cette liste de souffrances qu'il a accepté d'endurer, de prédications qu'il a données de par le monde. Bref, il est un véritable auteur de toutes ces œuvres magnifiques qui sont des œuvres de sainteté. Voilà ce que l'Église donc dit à la face de sa créature, « En soi tu n'es rien, mais si tu veux bien coopérer à ton Créateur, alors tu seras tout ». Le psalmiste l'avait déjà compris bien avant le christianisme, le psalmiste qui nous disait « À peine le fis-tu un peu moindre qu'un Dieu », en parlant de la créature humaine. « À peine le fis-tu un peu moindre qu'un Dieu ». Il fallait oser là encore. Si ce n'était pas l'Esprit-Saint qui avait directement inspiré l'auteur sacré, évidemment il n'aurait pas osé dire de telles paroles. Vous voyez donc cette noblesse que Dieu confère à sa créature. Ce prodige que le christianisme affirme depuis 2000 ans, c'est que cette poussière est capable de devenir de la bonne terre et de porter du fruit. Ah, bonne terre. Enfin, j'en viens à la parabole d'aujourd'hui. Vous vous inquiétiez peut-être que je sois déjà entré un peu rapidement dans le mercredi des cendres. Ne vous inquiétez pas, il reste encore un peu de temps avant le carême pour entrer sur la pointe des pieds, délicatement dans cette période qui toujours nous inquiète un peu. Je sais bien que nous ne sommes pas encore le mercredi des cendres, mais aujourd'hui donc, le Seigneur Jésus nous dit que cette petite poussière que nous sommes est capable, moyennant le concours de sa graine bien sûr, de produire quelque chose. Adam, le limon, Adam, c'est-à-dire la race humaine, dans hommes et femmes confondus, nous sommes ce limon primitif duquel Dieu, si nous y coopérons, voudra bien faire sortir des plantes. Or, je voudrais insister sur un type de coopération qui est nécessaire. Cette terre-là, pour donner du fruit, moyennant la semence divine, elle a bien des moyens d'entrer en connivence avec cette graine et de laisser la graine faire son travail. Il y a bien sûr la vie sacramentelle. Je l'écarte, je ne veux pas en parler aujourd'hui. Il y a un deuxième type de coopération, un deuxième type d'épousaille entre la terre et la graine, c'est l'oraison. Et je voudrais vous parler un peu d'oraison parce que c'est un sujet que nous redoutons au moins autant que le carême. Et c'est, je crois, le cœur de la vie chrétienne, à part les sacrements, la vie sacramentelle bien sûr. C'est le deuxième pilier, si on veut, de la vie chrétienne, et si peu de chrétiens s'y livrent. Et pourtant, sainte Thérèse d'Avila, qui est le docteur par excellence de l'oraison, ne cesse de nous rappeler qu'il est nécessaire de faire oraison. Elle dit même que toute âme qui fait un quart d'heure d'oraison par jour ne peut être damnée. Alors évidemment, il ne faudrait pas envisager l'oraison comme une simple assurance qu'un jour on n'ira pas en enfer, bien sûr. Elle définit l'oraison de manière beaucoup plus positive. L'oraison n'est que... C'est amusant qu'elle donne une définition par la négative, comme si elle voulait désarmer un peu nos craintes. L'oraison n'est que un commerce d'amitié avec Dieu, où l'on s'entretient seul à seul avec lui, tout en sachant qu'on est aimé de lui. Je la reprends, ce n'est pas exactement la formulation de sainte Thérèse. Sainte Thérèse dit, c'est un commerce d'amitié où l'on s'entretient seul à seul et souvent avec Dieu, dont on se sait aimé. Chacune de ces petites perles que sainte Thérèse nous donne, ces petits morceaux de la définition, importent. Un commerce d'amitié. Vous voyez, nous devons, pour pouvoir accéder à l'amitié avec Dieu, qui est une certaine forme, qui implique une certaine forme d'égalité. Il fallait quand même le christianisme, il fallait que Jésus-Christ vînt parmi ses créatures pour que nous osions nous prétendre amis de Dieu, c'est-à-dire d'une certaine manière les égaux de Dieu. Non pas parce que nous le serions par notre nature, mais parce que Dieu nous y invite. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Cette amitié, donc, qui implique une certaine égalité avec Dieu, est la condition sine qua non pour que nous fassions oraison, pour que nous entrions dans un dialogue avec Dieu. Et comme dans toute amitié, nous ne saurions nous entretenir intimement avec notre ami si nous avions un grief contre lui ou si lui avait un grief contre nous. Sainte Thérèse d'Avila transpose dans la vie spirituelle, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oraison possible si nous ne sommes pas en état de grâce. S'il advenait que vous commettiez tel ou tel péché grave, eh bien, allez immédiatement vous confesser, ou le plus tôt possible, en vous disant que votre vie de prière est creuse et vaine tant que vous n'êtes pas rétabli dans l'amitié divine. Première chose, donc. Deuxième chose, où l'on s'entretient seul à seul, c'est donc que la prière liturgique ne suffit pas. L'oraison est une autre forme de prière, mais tout aussi importante. Seul à seul, et souvent avec Dieu. Vous voyez, dans la parabole d'aujourd'hui, cette graine qui tombe en différents endroits du sol, c'est en fait Dieu qui se propose à différentes âmes qui acceptent ou pas d'entrer dans une oraison plus ou moins fructueuse. Il faut fréquemment se mettre à l'oraison, c'est exactement ce qui fait défaut à l'image que le Seigneur prend de cette terre qui a des ronces et des épines ou qui est constituée d'un rocher. La graine tombe dessus, malheureusement elle ne fructifie pas. C'est, nous dit le Seigneur Jésus lui-même, ce type d'âme qui s'enflamme, qui trouve très beau la vie de prière, qui accepte la parole de Dieu, mais qui, les affaires du monde la reprenant, finalement, ne laisse pas fructifier la graine en elle, voyez, ou ne s'y adonne pas suffisamment pour vraiment que la graine puisse s'enraciner en elle. Il faut faire oraison souvent, c'est-à-dire, selon les termes même de sainte Thérèse d'Avila, tous les jours. Une âme qui ne fait pas oraison tous les jours ne saurait être une âme chrétienne digne de ce nom. J'y insiste, il ne suffit pas de fréquenter les sacrements, il ne suffit pas de lire la parole de Dieu de temps à autre, il faut faire oraison tous les jours. 10 minutes suffisent dans un premier temps, avant que vous n'atteigniez des sommets d'extase comme sainte Thérèse d'Avila ou d'autres, ou peut-être certains parmi vous. Je serais heureux qu'ils se signalent, discrètement. Mais... Eh bien, voyez donc que cette fréquence, cette répétition d'une intime conversation avec notre ami qui est Dieu, moyennant l'état de grâce, et dont nous nous savons aimer, dont nous nous savons aimer. Mais écoutez, mes frères, si vous n'en êtes pas persuadés, ouvrez donc l'Évangile et voyez le Seigneur Jésus. Voyez cette promptitude à pardonner. Voyez ce sacrifice total de lui-même. Voyez cette absence totale de récrimination lorsqu'il est sur la croix. Je crois que pour ne pas comprendre que Dieu nous aime, il faut être aveugle, sourd à la fois. Ou en tout cas ne jamais être entré dans une église à l'heure de la messe, par exemple. Ou, en dépit, de ces lieux un peu étranges, nous voyons se manifester très clairement la bonté divine, la chaleur divine. Nous n'avons rien à craindre de ce Dieu-là, dont, je le répète encore, j'aime à répéter cette phrase-là de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sait qu'un péché, fût-il le pire des péchés, n'est qu'une goutte d'eau qui tombe dans le brasier ardent de la charité divine. Nous n'avons absolument rien à craindre de Dieu. Voyez donc cette oraison-là, il faut nous y adonner. Les racines, les ronces, comme les décrit le Seigneur Jésus dans sa parabole, ce sont nos préoccupations mondaines. Sainte Thérèse d'Avila nous dit qu'il est impossible de mener une vie d'oraison si, par ailleurs, nous menons grand train. Vous me direz, ça va de soi. On a du mal à faire oraison lorsqu'on rentre d'un dîner bien arrosé ou lorsqu'on ne cesse de parler à droite à gauche, de babiller à propos de n'importe quel fait, mondain. Mais elle va plus loin que ça. Elle estime que passer son temps, c'est-à-dire sortir chaque jour et parler sans cesse, est un obstacle qui est indépassable à l'oraison. Il nous faut avoir une vie qui est en conformité avec l'oraison, c'est-à-dire pas de musique en permanence sur les oreilles lorsque nous ne faisons pas oraison, c'est-à-dire nous n'avons pas à regarder des films en permanence, c'est-à-dire nous n'avons pas à nous répandre en discussion sans cesse, mais pas même à consulter sans cesse le journal pour trouver les dernières informations à la mode. Le développement aujourd'hui des mass-médias est un obstacle, un étouffoir pour la vie d'oraison, vous le savez. Vous le savez, mais passez-vous à l'œuvre. Je le sais, mais est-ce que je passe vraiment à l'œuvre? Il faut écarter d'un revers de main ces broussailles de la parabole que sont ces moyens de communication, cette volonté d'être sans cesse à la page, de connaître les dernières informations. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de quelque chose de tout à fait pécamineux, c'est assez léger, c'est une peccadille en termes moral, en termes de péché. Ce n'est pas un péché mortel que de vouloir être sans cesse informé des dernières réalités, voilà. Mais c'est un obstacle à la vie d'oraison. Et nous devons, encore une fois, écarter cela. La bonne terre, c'est cette terre, je résume, qui est en état de grâce, c'est-à-dire qu'elle a éliminé ce que Sainte Thérèse d'Avila décrit comme étant des petits serpents, des reptiles, elle appelle ça des reptiles sympathiques, c'est-à-dire notre âme, si on la laisse livrer à elle-même, on élimine ça par une bonne confession, ensuite on fréquente Dieu tous les jours, fût-ce 10 minutes, je vous le disais, un quart d'heure vous empêcherez l'enfer, c'est quand même pas mal, et c'est... Ça demande peu d'efforts, ça peut rapporter gros. Et puis, également, cette volonté de ce que Sainte Thérèse d'Avila qualifie de se ramasser. Donc, ne pas se répandre en permanence, en discussion, en consultation des mass-médias, mais vraiment se ramasser. C'est-à-dire, entretenir une sorte de silence dans sa vie. Il ne s'agit pas de devenir moine ou monial, ce n'est pas ce qu'on vous demande, mais il s'agit d'avoir une certaine austérité, une certaine sobriété dans le mode de vie, ce qui n'exclut pas de temps à autre tel ou tel moment de fête, voilà, où on sort de son quant à soi, mais la plupart du temps, il faut avoir cette habitude d'une vie très sobre. Voilà donc les conditions de l'oraison que je voulais exposer devant vous, qui sont les conditions données par Sainte Thérèse elle-même, le grand docteur de l'oraison. Je crois qu'il est opportun de considérer l'oraison, d'essayer de faire un petit effort pour essayer de mettre un pied dans l'oraison, puisque nous sommes sur le seuil du carême. Et y a-t-il temps plus privilégié que le carême pour essayer de mettre en pratique cela? En allant se confesser sans attendre de faire ses Pâques, en allant consulter l'Écriture. Je vous rappelle que le carême est l'un des rares temps de notre liturgie traditionnelle pour lequel chaque jour les lectures sont propres à la messe. Eh bien, comme base de l'oraison, vous prenez l'évangile du jour, l'épître du jour, et vous lisez tranquillement, vous mettant d'abord en présence de Dieu, après un bon confiteor et un autre père, dit Sainte Thérèse d'Avila, vous prenez le texte, vous le lisez une fois, une deuxième fois, et tranquillement vous vous représentez le Seigneur Jésus. C'est ça l'oraison. Ce n'est rien plus que ça. Et voilà que vous entrerez dans une véritable amitié avec le Sauveur. Et puisque c'est le carême, eh bien, vous serez prompt à vous départir d'un certain nombre d'activités qui ne sont pas vraiment fondamentales et qui, d'ordinaire, vous dispersent. Voilà, vous essaierez de vous rassembler. Je vous promets que, puisque je suis votre pasteur, je marcherai en tête, du moins j'essaierai. S'il m'arrivait de tomber, vous me releveriez bien vite. Si vous remarquiez que j'étais trop dispersé, que j'étais trop mauvais, rapidement, vous me diriez, écoutez, monsieur l'abbé, nous étions convenus quelque chose quand même. Tous, nous devons faire oraison pendant ce carême. Et puis, comme fruit de l'oraison, ce n'est pas seulement votre propre sanctification qui vous sera accordée, qui sera accordée par le Seigneur, c'est peut-être une église, et rapidement. Vous voyez qu'il faut savoir faire profit de tout, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci.